Professeur Régnier, bonjour.
Bonjour.
Professeur Régnier, vous êtes professeur de pharmacie galénique à la faculté de pharmacie de Marseille ?
Tout à fait. Ça fait maintenant 26 ans que je suis professeur à la faculté de pharmacie. À peu près autant que je suis chef de service à la science publique. Mais bien évidemment, ma carrière a commencé plus tôt puisque cette année sera ma 40e année d'assistance publique.
Professeur Régnier, quels sont les critères que vous retenez pour sélectionner les médicaments que vous utilisez ?
Bien, pour sélectionner les médicaments à la science publique, il existe depuis très longtemps, depuis 25 ans, un comité du médicament. Depuis d'ailleurs, il existe dans tous les autres hôpitaux. Comité du médicament qui est composé à part égale de médecins représentant chacun une spécialité et de pharmaciens. Et donc, nous allons choisir les médicaments en fonction de nos activités médicales. Par exemple, nous n'avons pas de lit de gériatrie pour l'instant, donc nous n'avons pas besoin de médicaments destinés aux personnes âgées. La durée de moyenne de séjour à l'hôpital est de l'ordre de 4 jours. Donc nous estimons au niveau de la commission du médicament que pendant cette période courte à l'hôpital, compte tenu de tous les examens, des explorations fonctionnelles, des interventions chirurgicales, les patients vont recevoir des produits qui ne sont pas habituels pour eux et qu'il est non seulement possible mais souhaitable de faire une fenêtre thérapeutique pendant cette période pour éviter les interactions médicamenteuses. Donc nous n'avons forcément pas les mêmes choix que les praticiens de médecine générale en ville.
Vous avez donc moins de médicaments que la pharmacie de ville ?
Oui, une pharmacie de ville a environ 9 000 à 10 000 produits. Nous en avons 1 000 000 et encore que c'est extrêmement déséquilibré puisque environ 60 spécialités pharmaceutiques correspondent à 60% de notre budget.
Professeur, quelle a été l'évolution du médicament à l'hôpital ?
Alors, l'évolution du médicament à l'hôpital n'avait pas beaucoup bougé jusqu'à ces 4 ou 5 dernières années. Et il y a 4 ou 5 ans, avec l'arrivée de certaines molécules, on a pu constater que sous la pression de directeurs financiers ou directeurs généraux, il y avait un contingentement d'un certain nombre de produits, ce qui fait que certains patients dans certaines régions n'étaient pas traités comme dans d'autres régions. Et cette inéquité des Français face à des traitements lourds, coûteux, a introduit donc a obligé le gouvernement à introduire dans la loi sur la tarification à l'activité la liste des médicaments onéreux et des dispositifs médicaux onéreux remboursables en plus de l'activité. Donc il y a une liste de médicaments qui existent depuis maintenant 2 ans et demi, médicaments qui sont remboursés aux hôpitaux par la sécurité sociale, quelles que soient, je dirais, les quantités prescrites. De ce fait, il n'y a plus l'inéquité que nous avions pu constater auparavant. Mais en revanche, les hôpitaux se sont engagés à signer un contrat de bon usage avec les agences régionales d'hospitalisation. Et dans ce contrat, ils garantissent que ces molécules et dispositifs médicaux onéreux seront délivrés sur prescription nominative. Les prescripteurs se sont engagés à respecter les référentiels de l'Agence française de sécurité sanitaire, de la Haute Autorité de Santé, de l'Institut national du cancer. Et nous nous sommes engagés par ailleurs à mettre en place dans les hôpitaux, dans les pharmacies hospitalières, tout un circuit qui garantit qu'il n'y aura pas de gaspillage, notamment en matière de médicaments anticancéreux. Ceci a fait un profond changement par rapport aux médicaments, car nous devons respecter le bon usage, moyennant quoi nous n'avons pas de contraintes financières sur ce type de produit.
Mais tout ceci, professeur, c'est parce qu'il y a des molécules qui sont plus onéreuses que d'autres.
C'est vrai, il est apparu il y a 5-6 ans les premiers anticorps monoclonaux et dans les traitements du cancer ou dans le traitement de certaines pathologies graves comme les polyarthrites rhumatoïdes. Et là, nous sommes passés de traitements qui coûtaient déjà quelques centaines d'euros à des traitements qui coûtaient plusieurs milliers d'euros, voire même parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros à l'hôpital. Et il fallait tout de même que nous prenions en charge ce surcoût considérable.
Professeur Régnier, pourquoi est-ce que ces molécules sont si chères ?
Ces molécules sont chères parce que l'industrie a fait un saut technologique il y a une dizaine d'années. Jusqu'alors, les molécules provenaient essentiellement de la chimie. Et donc, lorsqu'on avait découvert une molécule, que celle-ci était sur le marché, La synthèse chimique, même complexe, était quelque chose qui se passait en quelques jours et qui permettait de produire plusieurs tonnes sur n'importe quel site dans le monde entier. Il y a une dizaine d'années, on est passé avec des biotechnologies à un autre système de fabrication où là, l'utilisation de fermenteurs, de bactéries, nécessite pour la synthèse non pas plusieurs jours mais plusieurs mois. Sachant que chaque fois qu'il se produit un incident, tout est à reprendre à zéro. On ne peut pas conserver les produits intermédiaires. De plus, ces fabrications nécessitent des précautions plus grandes qu'auparavant et donc il n'y a que quelques sites de production dans le monde qui peuvent les faire. Ces molécules de biotechnologie ne s'adressent pas non plus à des populations de malades très nombreuses. Ce sont des médicaments de deuxième, troisième ligne dans le cancer. Dans la polyarthrite rhumatoïde, c'est la même chose. Donc, les contraintes de fabrication, le faible nombre de patients, la lourdeur de la recherche qui était beaucoup plus innovante que celle que l'on connaissait auparavant, conduisent à des coûts mondiaux qui sont effectivement, qui peuvent paraître exorbitants. Mais en revanche, quand on multiplie ce prix unitaire par le nombre de patients traités, on reste tout de même loin de ce qu'on appelle les molécules blockbusters, c'est-à-dire celles qui sont utilisées sur des millions de patients, comme les statines, les anti-inflammatoires, et ces produits qui valent plusieurs milliers d'euros par patient et par an, en fait, n'atteignent jamais au niveau mondial les chiffres d'affaires des autres molécules.
Professeur, pensez-vous que le remboursement des traitements de dizaines de milliers d'euros soit une bonne chose ?
Dans notre système de santé et de protection sociale, j'estime que c'est fondamental, parce que si la société ne prend pas en charge ces traitements de milliers d'euros indispensables pour maintenir en vie ou sauver des patients, ce ne sont pas les patients eux-mêmes qui pourront les payer. Donc, quand j'ai dans mon hôpital un patient atteint d'une maladie rare telle la maladie de Fabry, je crois que j'en ai trois dans la région, que ça nous coûte à peu près 200 000 euros par an et par patient, je me dis que c'est bien, parce que c'est là que doit porter notre effort de solidarité. Et j'estime que notre rôle est plus là que de rembourser des médicaments qui sont plutôt considérés comme des médicaments de confort, ou tout au moins qui ne sont pas indispensables à la survie des patients. Et le déremboursement, par exemple, de certains produits vénotoniques, qui, lorsque vous faites les comptes à la fin de l'année, ont un coût largement supérieur à ces traitements onéreux qui ne concernent que quelques patients, ben je trouve que c'est normal qu'on dérembourse d'un côté ce qui n'est pas indispensable pour pouvoir continuer à rembourser ce qui est essentiel.
Professeur, comment voyez-vous l'avenir du médicament et par là même de votre profession ?
Écoutez, à l'hôpital, je trouve qu'on est plutôt on va plutôt dans le bon sens, dans la mesure où la prise en compte mieux qu'avant de la vraie innovation thérapeutique, chirurgicale, permet pour les CHU de rester à la pointe, au moins en France. Et j'estime que les mesures qui ont été prises ces dernières années sont plutôt bonnes. De ce fait, la profession de pharmacien, qui était plutôt considérée comme un magasinier un peu de luxe au sein de l'hôpital, se transforme avec le bon usage du médicament et qu'il vient maintenant appuyer l'équipe des thérapeutes par ses connaissances des produits, de la traçabilité, des pathologies iatrogènes, etc. Et donc, je suis plutôt optimiste quant à l'avenir de la profession. Tout au moins, au niveau de l'hôpital, je ne me permettrai pas de juger la pharmacie officine parce que je n'ai pas d'expérience dans ce domaine. Mon but au niveau de l'hôpital pour les quelques années qui me restent en tant que responsable du pôle pharmacie à la science publique, c'est très clairement de sortir la tête des préparateurs et des pharmaciens des cartons dans lesquels elles se trouvent depuis des siècles, puisque les pharmaciens et les préparateurs passaient leur temps à sortir des boîtes de carton, les ranger sur des étagères, les remettre dans des cartons, les remettre sur des étagères, pour que les pharmaciens et les préparateurs aillent vraiment dans les services, appuyer les équipes médicales.
Professeur Régnier, je vous remercie beaucoup.
Merci à vous.